Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, c'est aujourd'hui le 11e dimanche après la Pentecôte. Et je voudrais rapidement, au cours de ce sermon, vous expliquer un petit peu les points forts des textes sacrés choisis par la Sainte Église. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 15. Et l'évangile selon saint Marc au chapitre 7. Commençons par l'épître d'une grande richesse. Il est dans cette épître, tout à fait au début, une phrase, un bout de phrase plutôt, très important. Tellement important que Monseigneur Lefebvre l'avait choisi avant de mourir. Il nous avait dit, sur ma tombe, je veux que cette phrase de saint Paul aux Corinthiens soit inscrite, soit gravée sur ma tombe en lettres d'or. Et si vous allez à Icône, au séminaire de Mgr Lefebvre, vous verrez sur sa tombe inscrites ces paroles de saint Paul. Tradidi quod et accipistis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je vous ai transmis ce que j'ai reçu. Voilà le texte complet. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai transmis tout ce que j'ai moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Je vous ai transmis donc tout ce que j'ai moi-même reçu. C'est là le symbole du magistère. Rappelez-vous, j'ai souvent parlé de cela en sermon, les trois fonctions du prêtre, magistère, ministère, gouvernement. Magistère, l'enseignement. Ministère, la sanctification. Gouvernement, la direction des âmes. Pour maintenir les âmes dans le bon chemin, loin des mauvais pâturages. Donc le rôle essentiel du prêtre, saint Paul parle ici non seulement comme prêtre, mais aussi comme évêque. Le rôle essentiel du prêtre, c'est de transmettre. Transmettre quelque chose qu'il n'a pas inventé. Transmettre quelque chose qui ne vient pas de lui. Transmettre quelque chose qui lui a été prêté, qui ne lui a pas été donné. Quand on nous donne quelque chose, on peut faire ce qu'on veut du don qu'on a reçu. Là, c'est quelque chose qui nous est confié, plus exactement. Prêté ou confié, comme vous voulez, les deux à la fois. Prêter et confier. On nous confie un trésor extraordinaire, d'une valeur incroyable, non pas pour que nous en fassions ce que nous voulons, mais pour que nous transmettions ce trésor incroyable que nous avons reçu, pour qu'il ne soit pas perdu entre nos mains, et que d'autres après nous, ceux dont nous avons la charge, les âmes dont nous avons la charge, pour qu'elles puissent recevoir ce même trésor, en jouir, le posséder d'une certaine façon, afin de eux aussi pouvoir à leur tour transmettre également à ceux qui suivent. C'est ce que l'Église a fait pendant 20 siècles. Pendant 20 siècles, mes bien chers frères, l'Église n'a pas arrêté de transmettre la foi catholique. C'est pour cela qu'on a un pape. Le rôle du pape, c'est quoi? Garder le dépôt de la foi. Transmettre le dépôt de la foi qu'il a reçu. Dépôt de la foi qui n'appartient pas au pape. Dépôt de la foi qui appartient à l'Église, qui appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors rappelons-nous la grande leçon qui est derrière ce texte. Pour pouvoir transmettre, il faut avoir reçu. Si je ferme la porte par laquelle la transmission m'est donnée, je ne pourrai plus transmettre à mon tour. Donc je dois ouvrir la porte, recevoir la transmission, fermer la porte pour être sûr que cette transmission demeure en moi, l'utiliser et ensuite la transmettre à d'autres personnes. C'est la grande règle de saint Thomas d'Aquin, une de ses plus belles phrases. Nemo dat quod non habet. Personne ne donne ce qu'il n'a pas. Donc il nous faut nous poser deux questions. D'abord, est-ce que j'ai ouvert la porte de mon âme pour pouvoir recevoir ce que le bon Dieu veut me transmettre, ce que l'Église veut me transmettre? Deuxième question. Est-ce que j'ai ouvert la porte de derrière pour pouvoir à mon tour transmettre à ceux qui suivent les trésors que j'ai reçus? Si je n'ai rien su, je n'aurai rien à donner. Et malheur à celui qui se présente devant Dieu les mains vides. Il est une deuxième phrase dans ce texte que je viens de vous lire, qui est aussi bien importante. Vous serez sauvés, nous dit saint Paul, par l'évangile, si vous le retenez tel que je vous l'ai prêté, tel que je vous l'ai prêché, pardon. Voilà le texte. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérerez et par lequel vous serez sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai prêché. Vous voyez, on redit la même chose. Je serai sauvé dans la mesure où je transmets l'évangile qui m'a été donné. Je serai sauvé dans la mesure où je retiens l'évangile tel que je l'ai reçu, tel que l'Église l'a prêché. Ces textes, mes bien chers frères, sont d'une importance capitale aujourd'hui, parce que justement, qu'est-ce qui s'est passé autour des années 60, après la mort, avec la mort du pape Pie XII en 1958, les gens d'Église, pour la plupart d'entre eux, ou l'immense majorité d'entre eux, ont arrêté de transmettre. Ils ont cru, ils se sont cru autorisés de changer ce qui devait être transmis. Ils ont été fatigués de transmettre toujours la même chose, et ils ont voulu transmettre quelque chose qui venait d'eux-mêmes. Au lieu de transmettre quelque chose qui venait de Dieu, donc quelque chose de divin, ils ont transmis quelque chose qu'ils avaient inventé avec leur petite intelligence, quelque chose d'humain. Et évidemment, les âmes sont mortes de faim parce qu'on ne peut pas se nourrir avec des choses humaines. Une âme est trop grande pour se nourrir, ne se nourrir qu'avec des choses humaines. Une âme doit être nourrie avec les choses divines. Les choses divines, pourquoi? Parce qu'elle est une substance spirituelle, selon le mot de saint Pélisse, douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le posséder parce qu'elle est immortelle. Alors, il est évident que si je ne retiens pas l'évangile tel que je l'ai prêché, tel que je voulais prêcher, dit saint Paul, eh bien, nous allons mourir de faim, nous allons mourir d'inanition spirituelle. N'auront plus de quoi nourrir notre âme. Pour cela, mes bien chers frères, qu'il faut connaître cette transmission. L'évangile dont il parle n'appartient pas à saint Paul. L'évangile dont saint Paul parle appartient à l'Église. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, il vous faut absolument connaître cette transmission. Je ne peux que vous conseiller, je ne dis pas cela parce que c'est moi qui ai fait ces conférences, mais pour qu'elles servent à quelque chose, je ne peux que vous conseiller sur le site dont je m'occupe, Dame Marie, que vous connaissez sans doute, puisque vous écoutez sur Internet ces conférences, donc vous le connaissez. Allez dans le site sous l'onglet Explication des Évangiles, Exégèse des Évangiles, et vous aurez là un cours qui n'est pas encore complet. J'ai fait que l'introduction et les premiers chapitres de saint Matthieu, et vous aurez là l'explication donné par les pères de l'Église des versets de l'Évangile. Vous avez au début, j'ai mis un polycopier complet de plus de 700 pages sur justement l'enseignement des pères. Et dans ce polycopier, il n'y a rien de moi. Sur les pères de l'Église. Étudiez, mes bien chers frères. Étudiez pour pouvoir transmettre. Malheur à vous si vous ne transmettez pas parce que vous n'avez pas voulu étudier ce que vous devez transmettre. Vous ne pouvez pas transmettre ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas transmettre ce que vous n'aimez pas. Et pour pouvoir aimer notre Seigneur Jésus-Christ, il faut le connaître. Rappelez-vous ce que disait tout le temps ma sainte Thérèse d'Avila, « Mon doux Sauveur n'est pas connu, n'est pas aimé parce que mon doux Sauveur n'est pas connu. » Donc non seulement je dois transmettre ce que j'ai reçu, mais je dois garder fidèlement ce que j'ai reçu pour pouvoir le transmettre aussi fidèlement. Tout cela par une vertu fondamentale dont on parle sans doute pas assez, la vertu de docilité. La vertu de docilité qui est la vertu par laquelle je reconnais avoir besoin d'une formation. La vertu de docilité par laquelle je reconnais que je ne peux rien faire par moi-même, que j'ai besoin de recevoir quelque chose pour remplir mon âme de choses qui ne m'appartiennent pas. Si j'ai cette docilité, j'aurai la vertu d'obéissance. Si j'ai la vertu d'obéissance, j'aurai la vertu d'humilité. Et si j'ai la vertu d'humilité, j'aurai la vertu de fidélité. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur, bon serviteur, qui a été fidèle dans les petites choses et qui recevra une grande récompense précisément parce qu'il a su être fidèle. Malheur au contraire à celui qui, par orgueil, s'est trouvé infidèle, n'a rien à transmettre, se retrouve les mains vides devant notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, mes bien chers frères, docilité, obéissance, humilité, fidélité. L'inverse égale. Malheureusement, existe aussi. L'inverse nous dit, l'indocilité, l'insoumission, si vous voulez, la désobéissance. L'insoumission va entraîner la désobéissance. La désobéissance, l'orgueil, et l'orgueil va toujours finir sur l'infidélité. L'infidélité, c'est une trahison, rien de plus. Malheur à celui qui trahit notre Seigneur. Malheur à celui qui trahit et qui coupe le canal, qui empêche l'eau du canal, l'eau sacrée du canal de la transmission, de la transmission théologique, de la transmission de la grâce. C'est le crime de l'Église de Vatican II. Ils ont coupé le canal. Ils ont mis une grosse pierre pour boucher le canal de la grâce parce qu'ils ont cassé les sacrements, ils ont détruit les sacrements. Ayant détruit les sacrements, il n'y a plus de grâce à donner. N'ayant plus de grâce à donner, comme il veut encore vaguement donner quelque chose, il donne quelque chose, encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, purement humain. Et les âmes meurent. Attention, une fois qu'on a eu conscience de la grandeur de ce que j'ai reçu, de ce que je dois transmettre, il faut me maintenir dans l'humilité. Voilà ce que nous dit Saint Paul. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Sa grâce en moi n'a pas été stérile. Cette stérilité de la grâce est provoquée par le péché mortel. Mais si je vis en état de grâce, si j'ouvre le canal qui me transmet la grâce du bon Dieu, à ce moment-là, je vais devenir fécond. Cette fécondité évangélique s'oppose à la stérilité de l'Église de Vatican II. La fécondité catholique s'oppose à la stérilité de Vatican II. Vous voulez mourir de faim? Vous voulez mourir de faim spirituellement parlant? Allez à la nouvelle messe, vous allez voir ce qui va se passer avec votre âme. Vous voulez au contraire garder la foi catholique, nourrir votre âme spirituellement, rester dans l'Église catholique pour avoir cette fécondité. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Saint Paul disait cela et nous devons dire la même chose. C'est par la grâce du bon Dieu que j'ai conservé la foi. C'est par la grâce du bon Dieu que je continue de prier un peu tous les jours. C'est par la grâce de Dieu que je me confesse régulièrement, que je communie. C'est pas par mes propres forces. Donc n'allons pas dire comme malheureusement trop le font. Je suis doué, je suis fort, et moi je garderai la foi, tout seul comme un grand. Non, vous ne garderez rien du tout, sans la grâce du bon Dieu. Pourquoi? Parce que c'est par la grâce de Dieu que vous êtes ce que vous êtes. C'est par la grâce du bon Dieu que vous n'avez pas été stérile. Saint Paul garde cette humilité. Je suis le moindre des apôtres, dit-il. Et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. On voit et on comprend très bien ici avec ce texte de Saint Paul la nécessité de la vertu d'humilité. Si je n'ai pas la vertu d'humilité, je tomberai dans l'orgueil. Si je tombe dans l'orgueil, je tomberai dans l'infidélité. Je ne serai plus capable de transmettre ce que je dois transmettre. Celui qui refuse de transmettre, il est, mes bien chers frères, à la fois sourd et muet. Et là, c'est l'évangile du jour. On est toujours au 11e dimanche après la Pentecôte, l'évangile de Saint Marc, au chapitre 7, versets 31-37. On voit l'évangile qui suit littéralement ce texte de Saint Paul. En ce temps-là, Jésus, quittant le pays de Tyr, vint par Sidon, vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un homme sourd et muet, et on le suppliait de lui imposer les mains. Alors Jésus, le tirant à l'écart de la foule, mit ses doigts dans les oreilles de cet homme et, prenant de la salive, il lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il jeta un soupir et il dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvrez-vous ». Et aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il parlait distinctement. Comprenons, mes bien chers frères, que celui qui refuse de transmettre, celui qui change l'évangile qu'il a reçu, celui qui modifie ce qui lui a été confié par la grâce sanctifiante, par la grâce du baptême, celui donc qui ne retient pas l'évangile tel qu'il l'a reçu de l'Église, eh bien devient sourd et muet. Il devient sourd parce qu'il est incapable de parler, il devient sourd parce qu'il est incapable d'entendre, et muet parce qu'il est incapable de parler. Incapable de parler, c'est le mutisme, incapable de parler parce qu'il n'a plus rien à donner. Il ne s'est pas rempli du bon Dieu, il n'a pas reçu ce qui lui a été transmis parce que rien ne lui a été transmis la plupart du temps, alors il se tait, il ne peut plus rien dire. Il est muet. Et celui qui, au lieu de vouloir transmettre la grâce du bon Dieu, la parole du bon Dieu, la théologie du bon Dieu, le catéchisme du bon Dieu, celui qui, au lieu de faire cela, veut prêcher sa propre petite vérité, il devient sourd à la grâce. Le bon Dieu lui donne des conseils, les hommes d'église, les prêtres, par la confession, par la communion, essaient de le guider. Il refuse d'entendre, il devient sourd. Pour comprendre ce texte, vous pouvez utiliser un autre texte de Saint Paul. Saint Paul à Timothée, très fort, au chapitre 2. Voilà ce que dit Saint Paul à Timothée. « Mon bien-aimé, je t'adjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts au jour de son avènement et de l'instauration de son règne, prêche la parole, presse les hommes à temps et à contre-temps, reprend, supplie, menace en toute patience et sans cesser jamais de les instruire. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais dans leur démangeaison d'entendre ce qui les flatte, ils se donneront des maîtres selon les désirs et leurs désirs et détourneront l'oreille de la vérité pour l'ouvrir à des fables. Mais toi, veille, travaille sans relâche, fais ton œuvre de prédicateur de l'Église, remplis ton ministère, sois sobre. Car pour moi, je suis sur le point d'être sacrifié, le moment de ma mort approche, j'ai bien combattu, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Il ne me reste qu'à attendre la couronne de justice qui m'est réservée, que le Seigneur en grand juge me rendra en ce grand jour, et non seulement à moi, mais aussi à ceux qui aiment son avènement. Fasse au ciel, mes bien chers frères, que nous tous puissions dire au bon Dieu, le jour de notre mort, le jour de notre jugement particulier, j'ai bien combattu, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. C'est terrible quand on pense à ces milliers d'hommes d'église, de l'église de Vatican II, qui ont apostasié avec François à leur tête, qui n'ont plus rien à transmettre, parce qu'ils ne pourront plus jamais dire « j'ai gardé la foi ». Parce qu'ils ont cassé la foi de catholique, ils ont perdu la foi catholique, ils ont dissous la foi catholique dans l'esprit du monde. Et à la place, ils ont l'esprit de Vatican II. Au lieu de l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ qui prêche pauvreté, chasteté et obéissance, il prêche la trilogie de la Révolution. Liberté, égalité, fraternité. Alors, mes bien chers frères, vérifions que nos oreilles sont ouvertes. Vérifions que notre langue est libérée de ses liens. Et vérifions que je ne suis pas sourd, que je ne suis pas muet, que je peux donc entendre pour pouvoir transmettre. L'évangile de Saint-Marc dit d'abord, on lui amena un homme à notre Seigneur, on lui amena un homme sourd, première étape, et muet, deuxième étape. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord rendre l'ouïe à cet homme pour qu'il puisse ouvrir les oreilles, et ensuite délier le lien de sa langue pour qu'il puisse parler. Si je suis sourd, je ne peux pas recevoir ce qui m'est transmis. Si je suis muet, je ne peux pas transmettre ce que j'ai reçu. Donc il me faut vérifier que l'oreille de mon âme est ouverte, grande ouverte, pour que je ne sois pas sourd, et que le lien de ma langue est libre pour que je puisse parler, transmettre ce que j'ai reçu. Il faut savoir, mes chers frères, entendre quand il faut. Dans certains cas, il faut apprendre aussi à se boucher les oreilles. Parce que je suis dans le monde moderne, entouré des bruits du monde moderne, de la pagaille du monde moderne. Il faut savoir se boucher les oreilles. Dans d'autres cas, il faut savoir ouvrir les oreilles. Comme notre Seigneur Jésus-Christ qui dit à ce sourd-muet, « Ouvre-toi, ouvrez-vous et faites-en. » C'est pareil pour la langue. Il faut savoir, dans certains cas, parler pour transmettre. Et il faut savoir, dans d'autres cas, se taire. On se tait parce qu'il ne faut pas jeter des perles aux pourceaux. Dans certains cas, le bon Dieu nous demande de nous taire. On ne prêche pas notre exemple. C'est tout. On ne peut pas faire grand-chose d'autre. Dans d'autres cas, au contraire, il faut parler. Alors, le bon Dieu, par sa grâce, va travailler avec nous. Va nous utiliser comme un instrument et nous pourrons transmettre les vérités de la foi catholique. C'est toute l'histoire des miséricordes divines de Dieu à notre égard. Reprenez la belle oraison de ce 11e dimanche après la Pentecôte. Dieu Tout-Puissant et Éternel, dont l'immense bonté va au-delà de nos mérites et même de nos désirs, répandez sur nous votre miséricorde, faisant grâce de ce que notre conscience a sujet de craindre et accordant ce que notre prière n'ose pas espérer. Notre Seigneur Jésus-Christ va supplier son Père pour nous, avec des gémissements ineffables, pour nous obliger à ouvrir notre cœur, pour nous obliger à en ouvrir notre intelligence, pour nous obliger à ouvrir notre volonté, pour que nous puissions être illuminés de la grâce du bon Dieu et œuvrer en fonction justement de cette vérité de l'Évangile qui nous est transmise, qui nous a été transmise par l'Église pendant 20 siècles et que nous devons transmettre à ceux qui suivent. Alors, mes bien chers frères, demandons cette grâce de la fidélité. Et s'il y en a une qui a été celle qui a été fidèle, c'est la Sainte Vierge. Virgo fidelis, ora pro nobis. Vierge fidèle, priez pour nous. Passons par la Troisième Vierge, mes bien chers. Mes bien chers frères, vous voulez transmettre, aimez la Sainte Vierge. Vous voulez recevoir, aimez la Sainte Vierge. Vous voulez transmettre ce que vous avez reçu, aimez la Très Sainte Vierge Marie. Faites aimer la Très Sainte Vierge Marie. En faisant aimer la Très Sainte Vierge Marie, vous ferez aimer son divin Fils. Et en faisant aimer son divin Fils, vous ferez aimer l'Église catholique en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.